François Weekend.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
18h34 sur Europe 1. Merci de nous rejoindre pour ce débat des grandes voix en ce samedi 3 juillet. Avec ce soir la journaliste politique Laetitia Krupa, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, et Philippe Moreau-Chevrolet, président de MCBG Conseil, spécialiste en communication. Soyez les bienvenus. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Avec la Bonsoir, recherche Wendy. D'indices qui s'accélère autour d'Éric Zemmour, oui ou non, sera-t-il candidat à la présidentielle? Eh bien, nous sommes, si vous ne l'avez pas lu, vous le comprendrez, au cœur du livre que vous avez sorti il y a 2 mois, Laetitia Krupa, La tentation du clown. Avant-hier, Albin Michel décide de rompre son contrat avec l'essayiste sous un motif discutable. Il se lancerait en politique. Alors déjà, est-ce que c'est un motif? Est-ce que ça vous étonne finalement qu'on en arrive là aujourd'hui avec Éric Zemmour?
Écoutez, non, puisque c'est... Une des personnalités que je teste dans La tentation du clown, le livre enquête que j'ai sorti effectivement il y a 2 mois maintenant. Donc il y avait cette envie-là d'Éric Zemmour, peut-être, je ne l'ai pas rencontré, il n'a pas souhaité répondre à mes questions parce qu'il se préparait. Donc il savait bien qu'il fallait éviter les pièges. En tout cas, il y a une envie dans son entourage et dans quelques personnalités, notamment le maire d'Orange, Bompard, qui ne cesse à chaque fois qu'il en a l'occasion de le soutenir et de nous faire croire qu'il y a un élan irrésistible, parce que c'est un petit peu ça, ouais, l'histoire que l'on nous vend, qu'il y aurait comme ça,
appel de la
nation pour Éric Zemmour, qui reste à démontrer, puisque les enquêtes montrent qu'il est à 5,5% d'intention de vote, donc on est encore quand même très loin d'un tsunami. Mais c'est vrai que, en tout cas, ça bruisse et en tout cas, cela montre qu'il y a cet espace possible, effectif pour 2022, parce que vous avez remarqué, Wendy, personne ne pose la question de la légitimité de sa candidature. C'est-à-dire que ça ne dérange personne, oui, qu'il n'y connaisse rien a priori à la politique, c'est-à-dire qu'il n'ait jamais eu de mission,
de mandat. Mais ça, c'est classique avec les clowns, ça.
Hein, exactement. Et donc, en tout cas, ça confirme que notre époque, on est vraiment dans l'ère du tout se vaut, oui, et que la candidature d'Éric Zemmour ne pose a priori aucun problème à personne.
Frédéric Dabi.
Oui, c'est vrai que plus que le tout se vaut, on est dans l'ère du pourquoi pas moi. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron a, si je puis dire, dégelé un nombre d'ambitions assez incalculables. N'oublions pas qu'Emmanuel Macron, trois ans avant son élection, était complètement inconnu des Français. Le 5,5%, c'était une enquête IFOP Le Point. Je trouve que ce n'est pas une intention de vote ridicule.
C'était quand ?
C'était environ 3 semaines.
Oui.
Il y avait également du potentiel électoral où il était encore plus haut. Mais ce qui compte, c'est de confronter à une offre électorale qui, pour l'instant, n'est pas connue. Ce qui peut lui donner des ailes, c'est le mauvais résultat du Rassemblement national aux élections régionales.
C'est
même
ça.
Si je pense que tirer des enseignements nationaux d'une élection locale avec autant d'abstention, quand on est sur un contexte où les deux sphères, la sphère politique locale et la sphère politique nationale, sont complètement étanches et très différentes. L'ancien monde qui triomphe au local, le RN et Emmanuel Macron qui reste en position de force au niveau national, et plus que de sa légitimité. Moi, je pense qu'il a un vrai sujet sur le récit de sa candidature. Comment convaincre les Français qu'il n'est plus seulement un polémiste, de talent ou pas, un éditorialiste, une personne érudite, qui fait un constat, qui joue les Cassandres sur un déclin français irrémédiable que les Français partagent à une très large majorité. Mais le récit, c'est ses réseaux, son offre programmatique complète et pas seulement les enjeux sociétaux, et le changement de la chrysalide en papillon, c'est-à-dire du polémiste à l'homme politique d'État. Et là, il y a beaucoup de chemin.
Alors, le récit commence peut-être, et je vais vous interroger, Philippe Moreau-Chevrolet, sur ce sujet. Pour revenir à Albin Michel, qui décide de rompre son contrat avec Éric Zemmour, on a derrière, par solidarité, un autre auteur qui vend beaucoup chez Albin Michel, Philippe de Villiers, qui quitte cette maison d'édition. Là, est-ce qu'on peut commencer à y voir une sorte d'alliance de valeurs, au fond, Philippe Moreau-Chevrolet?
Oui, on peut y voir une alliance de valeurs, mais on peut y voir aussi autre chose. Dans l'édition, on explique que c'est peut-être pas tout à fait un hasard, parce que figurez-vous que Lise Boel, l'éditrice de Zemmour, est aussi l'éditrice de De Villiers. Bon, elle est aussi l'éditrice de Dora l'exploratrice, mais bon, ça c'est pas vraiment beaucoup de rapport. Et il se murmurait qu'elle voulait quitter Albin Michel. Donc d'une certaine façon, Albin Michel aurait peut-être précipité le départ de Zemmour. Mmh. Voilà, et il aurait peut-être préféré, Albin Michel, dire qu'il quittait, dire qu'il prenait une décision politique plutôt que de se voir quitter par sa meilleure éditrice et voir partir des poids lourds comme Zemmour, Philippe de Villiers, etc.
Oui, en tout cas, il brouille les pistes.
Lourd,
hein. Il brouille les pistes parce que, alors, il dément la conversation qu'il aurait eue avec l'éditeur de chez Albin Michel, qu'il se lancerait en politique. Ça s'organise manifestement en coulisses. Il cherche son directeur de campagne. Il entre dans un mouvement aussi avec les jeunes générations Z qui s'organisent pour tracter. On est dans un mouvement qui existe.
Ah, on est dans une ambition politique qui existe et qui est un mouvement politique qui existe. Et je pense qu'Éric Zemmour, il envisage tout à fait sérieusement de se présenter. Il est entouré par des gens qui voient en lui, à tort ou à raison, quelqu'un qui pourrait réformer la vie politique. Il a fait une vidéo récemment où il se comparait au général de Gaulle.
Donc
c'était,
ouais.
Quand même, c'était quand même assez... Il explique en gros, on en a parlé ici, mais il explique en gros que le général de Gaulle, c'était un intellectuel, que c'était... Enfin bref, c'était lui, quoi. Et il a un boulevard avec une chaîne de télévision, avec pas mal d'audience. Et il est dans une dynamique extrêmement positive. Donc effectivement, ses ambitions pourraient être de nature politique. Ce serait pas très surprenant au fond.
C'est ce que dit Laurent Ruquier, que vous connaissez bien aussi, Laetitia Crepa dans Le Parisien. Hein. Je crois que Zemmour sera candidat, surtout après les résultats des régionales. Tout me fait dire ça.
Oui, alors si Laurent Ruquier le dit, non, j'en sais rien.
Bah,
je pense
il le connaît pas mal,
tout,
l'animal quand même.
Ouais, mais en fait. Ce qui est notoire et je pense assez efficace pour Éric Zemmour, c'est qu'il va se lancer vraiment tardivement dans la campagne. Pourquoi ? Pour garder cette agora qu'il a à lui tout seul. Il a un boulevard, il a une émission tous les jours où il peut dire ce qu'il veut sans contradicteur, parce que honnêtement, il n'y a jamais personne en face de lui qui réussit à le déstabiliser. En tout cas, la programmation est faite de telle sorte qu'il puisse comme ça avancer avec sa mécanique de communication sans jamais qu'on grippe la machine. Et donc, s'il se lance dans la campagne, ça change la donne. Il ne pourra plus comme ça avoir cet espace de diffusion de sa pensée, de son idéologie, comme ça, une heure par jour sur une antenne de télévision. Mmh. Et il sera face aussi à des journalistes. Il aura une intermédiation journalistique et des contradicteurs. Donc, si vous voulez, il n'a aucun intérêt à se lancer rapidement. Il
ça,
va garder
sûr. Oui.
Son précaré.
C'est une candidature, en tout cas politiquement, qui pourrait prendre des voix à Marine Le Pen. Écoutez le message qu'elle lui adressait clairement. Directement chez nos confrères d'RTL il y a quelques semaines.
Je lui dis, Éric Zemmour, vous êtes un éditorialiste et un écrivain respecté et écouté. N'affaiblissez pas, même un tant soit peu, n'affaiblissez pas le camp national auquel je sais vous êtes attaché.
Et ben voilà, voilà qui. Quelles sont la menace. Hein
oui, on sent qu'il y a de la menace, il y a de l'inquiétude de la part de Marine Le Pen. C'est une nouveauté pour elle qui était seule dans son couloir et qui pouvait, je dirais, monopoliser les voix de la droite, du camp du non au référendum du 29 mai, même s'il y avait un nom de gauche du côté de chez Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, les premières enquêtes ont montré, celle du Point par exemple, que Éric Zemmour prenait également à droite. Dans des catégories super. N'oublions pas que le moteur du vote RN, et c'est pour ça qu'il s'est complètement grippé, Wendy, aux élections régionales, c'est un vote populaire. Éric Zemmour parle peu aux catégories populaires. Il parle peu de questions sociales. Et très vite, quand il parle de questions sociales, il assimile à la gauche, qui est bien sûr un repoussoir, au nid. Donc, est-ce que c'est vraiment un problème pour Marine Le Pen ? C'est une question. Est-ce que ce ne sont pas d'éventuelles réserves de voix dans le cadre d'un second tour d'une présidentielle ? C'est également une autre raison. Et n'oublions pas que la première fois que le Front National, je dis bien Front National, est arrivé au second tour d'une élection présidentielle, il y avait un concurrent qui était annoncé comme de taille pour Jean-Marie Le Pen, qui était Bruno Maigret. Et on sait comment ça s'est terminé le 21 avril 2002.
Oui, mais on verra si le nom d'Éric Zemmour sera prononcé ce week-end à Perpignan, au congrès du Rassemblement National. Encore un mot sur cette alliance ou contre-alliance, justement, droite-extrême-droite.
Robert Ménard, alors on ne sait plus pour qui roule Robert Ménard, parce qu'il a complètement critiqué de façon unilatérale Marine Le Pen, et puis il revient quand même un peu sur ce qu'il avait dit. Donc je ne sais pas, il est en tout cas entre les deux eaux. Il lui dit attention, Éric, ne sois pas la Taubira de Marine Le Pen.
La référence à 2002 est vraiment intéressante.
Sûr,
hein.
Il l'a comparé à Christiane Taubira qui avait finalement volé des voix, piqué des voix et fracturé le vote socialiste et donc fait perdre Lionel Jospin selon certains observateurs. Donc c'est intéressant, vous voyez ce qui se passe de ce côté-là de l'échiquier politique. En tout cas, ça donne le ton, il me semble, de 2022 où là on voit que tout est possible. Et là, on est encore dans un scénario qui est une fiction, mais qui qui nous montre l'étendue de la possibilité des candidatures.
Ah oui, c'est pas fini, on est le 3 juillet. Il y a un autre chapitre, Philippe Moreau-Chevrolet, qui sera lu en octobre, celui d'une autre tentation. Cyril Hanouna, qui va publier à la rentrée « Ce que m'ont dit les Français », livre politique, entre guillemets, écrit avec Christophe Barbier. Alors, je vous pose la question à vous, Philippe Moreau-Chevrolet, parce que décidément, dans cette équipe des Grandes Voix, vous avez du flair, vous êtes l'auteur de la BD « Le Président », avec la candidature potentielle d'Hanouna à l'Élysée. Ah, on est
oui, dans lequel on mettait, dans lequel on met Christophe Barbier qui aussi. Dit. Alors on lui fait dire, voilà, on lui fait dire parce qu'on a voulu aussi être un petit peu humoristique. On le fait s'insurger contre la politique spectacle. Ce qui est drôle, c'est que du coup, dans la réalité, il écrit un livre avec Cyril Hanouna. Alors oui, dans la BD, on imaginait Cyril Hanouna s'intéresser à la politique, mais c'est aussi parce qu'on a beaucoup enquêté sur le personnage. Et donc, on savait que comme Éric Zemmour, pour des raisons d'ailleurs parfois similaires, une volonté d'être plus républicain que les républicains, une volonté aussi de prendre une certaine revanche intellectuelle, sociale, pour les mêmes moteurs, il avait envie lui aussi de politique. Donc on a écrit cette BD en se disant, c'est possible que ça arrive. Et de fait, on est absolument terrifié avec mon co-auteur Morgane Navarro du fait que ça prenne cette tournure-là. On a l'impression tous de vivre dans un épisode d'une série de Netflix. Donc c'est un petit peu inconfortable quand même, je vous avoue, d'avoir écrit ça, de l'avoir se déroulé dans la réalité. C'est assez bizarre parce que j'imaginais quand même pas qu'il irait jusqu'à écrire un livre politique, Cyril Hanouna, avec Christophe Barbier en disant voilà ce que m'ont appris les Français. Et incidemment, je sais pas dans quel camp il va tirer. C'est-à-dire, est-ce qu'il va tirer contre Emmanuel Macron, pour Emmanuel Macron, pour les Gilets jaunes? Dans quel sens ça va aller? Parce qu'il faut pas oublier que tous ces gens-là, Éric Zemmour, Cyril Hanouna, peuvent peser sur l'élection, même s'ils ne sont pas au final candidats.
Bah oui, si vous ajoutez un 5% par-ci, des tentations par-là, il livrera son regard sur la France actuelle, la France de 2022, et analysera aussi tout ce qui est ressorti de ses émissions, des témoignages sur l'antenne depuis 3 ans. On se souvient qu'il avait beaucoup reçu les Gilets jaunes.
Donc c'est ce qu'il appelle le terrain. Cyril Hanouna se considère comme un homme de terrain recevant des personnes dans son studio. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que tout ça, hein, aussi bien Zemmour qu'Hanouna, ça participe, c'est le reflet de cette fracturation du champ politique, ce qui annonce une présidentielle, je n'ai bien sûr, c'était qu'une hypothèse, avec un nombre de candidats peut-être record. La dernière fois, c'était en 2002, encore une date en fait symbole. Et ce qui est très intéressant, c'est aussi ce qu'il dit, qu'il veut recevoir tous les candidats à l'élection présidentielle, dans un contexte, Wendy, où sans doute, et je ne l'espère pas, mais c'est possible, du fait de des queues de comète liées à la pandémie, il y aura moins de meetings, moins de déplacements sur le terrain et plus de débats avant le premier tour. Ça avait commencé en 2017 avec 2-3 débats qui avaient eu dans nos enquêtes sur les motivations du vote un poids absolument énorme, ne serait-ce que la dynamique Mélenchon et l'antidynamique qu'avait connue Marine Le Pen.
Oui, parce que s'il ne présente pas le débat de l'entre-deux tours, il sera aux manettes de cette émission politique que vous évoquiez, un candidat à la présidentielle à chaque fois, Laetitia Crepa.
Je ne veux pas vous effrayer, mais rappelez-vous ce qu'il a dit aux Parisiens il y a à peu près 15 jours, Cyril Hanouna, interviewé, grande page dans le Parisien le week-end. Il a dit il y aura certainement Éric Zemmour à ma table. Je ne sais pas encore avec quelle casquette, chroniqueur peut-être, ou candidat. Donc vous imaginez bien que
si on a... À la table de cette émission.
Et oui. Relisez bien l'interview. Donc, il est possible qu'on ait une campagne, alors soit avec des candidats clowns, loufoques, farfelus, hors système et des personnages dont on n'a pas l'habitude, ou menés tambour battant par des animateurs, journalistes, on ne sait plus comment les appeler, et qui vont donner un ton, une ambiance absolument particulière et jusqu'alors inexplorée.
Une double tentation du clown. Vous irez, vous, si on vous invite à la table, Philippe Moreau-Chevrolet, Laetitia Crepa?
Oui, absolument. Moi, j'irai parce que je tiens à voir ça de près. Moi, je serais absolument intéressé. Après, est-ce que j'ai envie, en tant que citoyen français, de vivre la période qu'on s'apprête à vivre? J'ai parfois envie que la France s'arrête pour descendre, pour paraphraser Jane Birkin, mais ça m'intéresserait. Merci, d'assister, oui. De voir de près. Et puis aussi, il faut comprendre une chose quand même, c'est que ces clowns, entre guillemets, sont des gens qui ont, aussi bizarre que ça paraisse, n'en seraient pas là s'ils n'avaient pas un vrai intérêt pour la politique. C'est-à-dire qu'on peut se consoler d'une certaine façon.
C'est ça.
Bien d'une certaine façon. Par le fait que la politique est tellement importante dans notre pays que même des gens qui, a priori, font que du divertissement ou du commentaire comme Zemmour, peuvent vouloir devenir le général de Gaulle. Et alors, ça, c'est typiquement français.
Je garde cette note positive pour terminer.
Je vais nuancer, pardon, la note positive que je partage de notre ami Philippe. Oui, nous sommes un peuple éminemment politique, mais qu'il n'y a qu'un jour pour 31 millions de Français ne s'est pas rendu aux urnes. Et est-ce que ce type de campagne spectacle va fabriquer du vote ou au contraire du rire qui se muera finalement en indifférence le 10, parce que c'est le 10 finalement, et 24 avril prochain.
Merci Frédéric
Dabilly. C'est tout l'enjeu. L'enjeu, c'est de faire venir aux urnes les abstentionnistes. Voilà. Regardez ce qui s'est passé en Tunisie en 2019. Il y avait deux candidats, un mania de la télé qui était emprisonné et un autre, un prof de droit constitutionnel complètement inconnu. Et ils ont fait bondir le chiffre de participation au premier tour et ensuite au second tour, uniquement avec du spectacle. Donc Wendy, oui.
Si on travaille pour la bonne cause, ok.
Cette nouvelle ère peut amener et peut lutter contre l'abstention électorale. Malheureusement, c'est comme ça, c'est notre époque.
À tout de suite avec ce que vous avez vu, lu et entendu.
Wendy Bouchard, Les Grandes Voix.